Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beniada en partenariat avec IPK Prévoyance.
Invité du podcast de l'aviation Bernd Severs, vice-président de Collins Aerospace pour la France et l'Europe, également chargé des problématiques de développement durable. D'abord, Bernd Severs, un rappel rapide des activités de Collins Aerospace.
Collins Aerospace, c'est une des 4 unités opérationnelles de Raytheon Technologies. Collins Aerospace, ça représente 68 000 employés dans le monde entier et 19 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Collins Aerospace, nous sommes équipementiers, systémiers, avec un portfolio qui s'étend des aérostructures, des nacelles, de l'avionique, des systèmes intérieurs, cabine et cargo, des systèmes mécaniques, train d'atterrissage, servo-commande, roues et freins. Ensuite, des systèmes de mission, systèmes de défense et des systèmes électriques, powers and controls, comme on dit chez nous.
Et pour la partie France, ça représente quoi?
En France, Collins Aerospace a 3500 employés sur 7 centres d'excellence majeurs dans la région parisienne, Normandie, à Toulouse, dans le Lot et aussi à Dijon. Donc, nos centres d'excellence en France, c'est les hélices à Rateau-Figeac, l'avionique à Blagnac, les nacelles à Colomiers, à Toulouse, les servo-commandes pour des commandes de vol primaires à Saint-Antoine-le-Monde, les systèmes de protection d'incendie à Antony.
On va parler avions du futur, système du futur. Qu'est-ce qui est viable aujourd'hui et qu'est-ce qui ne l'est pas en matière de décarbonation de l'aviation?
Je pense que pour décarboner l'aviation, je pense qu'il faut se prendre en plusieurs étapes. Il y a effectivement à l'horizon 2030-2035 l'avion plus électrique, l'avion hybride électrique et aussi les carburants durables, mais aussi l'avion hydrogène. Mais je pense qu'on peut faire la décarbonation déjà à partir d'aujourd'hui. Quels sont les moyens chez Collins Aerospace? Nous, on travaille sur l'amélioration de l'efficacité énergique des avions. Ça passe par des gains de masse, par exemple, par des nouvelles structures plus légères, moins volumineux. Ensuite, nous développons aussi des technologies pour améliorer les efficacités d'opération. C'est-à-dire, à partir des systèmes connectés, à partir des données en temps réel qu'on puisse exploiter en temps réel, on peut optimiser les opérations au sol et en vol des avions. Juste à titre d'exemple, nous, on travaille sur des trajets optimisés en fonction de la météorologie. Et donc, ça permet en fait d'économiser du carburant en optimisant la trajectoire de l'avion.
Le poids en aviation, c'est l'ennemi à combattre. Est-ce que vous travaillez sur de nouveaux matériaux?
Alors, des nouveaux matériaux, il faut parler des nouveaux matériaux, mais également des matériaux, des nouveaux procédés de fabrication. Par exemple, la fameuse impression 3D, donc ce qui est une, on appelle ça la fabrication additive, qui permet de réaliser les structures et les équipements qui sont moins volumineux et donc qui pèsent moins. Et donc là, il y a un fort potentiel de réduction de masse. Après, les matériaux comme les thermoplastiques ou fibres de carbone aussi va permettre de réduire de manière considérable la masse des avions.
Et quelle piste en matière de propulsion?
Pour la propulsion, on se dirige vers... Il y a 3 voies qu'il faut regarder. En fait, pour commencer, d'abord, il faut regarder des propulsions plus efficaces en rendement de consommation de carburant. Donc ça, c'est la première étape. Deuxièmement, on peut se tourner vers la propulsion électrique, hybride électrique. Ensuite, on parle de la propulsion à partir des carburants plus durables, donc l'hydrogène ou le carburant durable qu'on appelle le SAF, donc Sustainable Aviation Fuel.
Puisqu'on parlait de la France, l'avion vert, effectivement, pour Collins, en France, ça représente quoi?
Il y a 2 exemples que je peux vous donner en France, 2 exemples concrets. Donc, à Figeac, c'est notre centre d'excellence pour les hélices. On investit, avec l'aide du gouvernement, avec l'aide de la région, on investit 30 millions d'euros pour la création de nouveaux centres d'excellence pour les hélices du futur. Hélices du futur, ce sont des hélices en fibre de carbone. Ce sont des hélices qui ont une efficacité propulsive améliorée et aussi une efficacité aérodynamique et aéroacoustique. Aussi en France, si on reste dans l'avion plus électrique, on travaille sur des servo-commande électrique compacte, une servo-commande qu'on peut utiliser par exemple dans les configurations des ailes fines. Et les ailes fines qui permettent en fait de réaliser des configurations d'avions aérodynamiquement plus efficaces et donc plus efficaces d'un point de vue consommation de carburant.
L'hélice la plus aboutie aujourd'hui, c'est l'exemple, c'est celle de la 400M.
Oui, tout à fait, c'est l'hélice de la 400M, mais aussi l'hélice qu'on appelle le NP2000, qui est une hélice qui a une efficacité propulsive améliorée de 30%. Mais je pense que quand on parle de l'hélice du futur, ce qui est important aussi, les futurs avions, les premiers avions tout électriques ou hybrides, ou même les avions à l'hydrogène, on imagine qu'ils vont, ça va être d'abord des avions à hélice, donc des turboprops. Donc, évidemment, l'hélice va jouer un rôle clé dans les avions à zéro émission futurs.
Quand on parle de l'hydrogène, ça veut dire une rupture technologique et dans la forme de l'avion et dans tout. En fait, on n'est plus du tout sur les mêmes configurations. On parle de 2035 ou 2050, c'est demain, c'est pas trop court.
Alors, c'est une bonne question. On peut se poser, est-ce que c'est faisable ? Donc, d'abord, il faut dire que techniquement, c'est faisable de sortir un avion en 2035 à base d'hydrogène. Mais ce sera un avion qui est forcément petit et régional, donc un avion à distance réduite. Je pense que plus qu'on se dirige vers 2050 et au-delà, on pourrait penser de passer à des avions plus grands, mais il y a quand même des challenges de taille, tels que le stockage du carburant, la température, et donc ça va amener à des formes d'avions qui sont différentes par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et nous, en tant que systémier chez Collins, on travaille en campagne les avionneurs, les motoristes, justement pour développer des technologies et des systèmes qui vont rendre possible ces genres de nouvelles configurations d'avions pour réaliser des avions hydrogène.
Exemple.
Exemple, vous avez besoin des nouvelles structures pour le stockage. Des structures qui permettent en fait de stocker l'hydrogène. Ensuite, forcément, l'avion hydrogène sera un avion plus électrique. Donc, il faut développer en même temps des systèmes, des équipements plus électriques comme les actionneurs électriques. Donc, il faut passer des systèmes hydrauliques ou pneumatiques aujourd'hui traditionnels par des systèmes et des équipements plus électriques.
L'avenir aujourd'hui, ce n'est pas plus les SAF, les carburants alternatifs.
Effectivement, aujourd'hui, si on veut décarboniser à l'horizon de 2050, je pense que les SAF, les carburants durables, sont pas la seule solution, mais font une grande partie la solution. Parce que si on regarde les avions à long courrier, même les avions monocouloirs, aujourd'hui, c'est les carburants durables qui proposent une solution pour ce type d'avion. Alors, qu'est-ce que fait Collins dans les carburants durable? Donc nous, on accompagne les avionneurs et les motoristes. Donc nous, on est équipementier des systèmes de carburant. Les systèmes de carburant, c'est à la fois des pompes, c'est à la fois des systèmes de distribution, mais aussi des systèmes de jaugeage. Aujourd'hui, un système de jaugeage doit, avec une précision de à peu près 1%, indiquer la quantité de fuel dans un avion. Si on passe à des carburants durables, il faut être capable à mesurer la quantité de fuel à bord avec la même précision, mais avec d'autres carburants. Donc actuellement, on travaille sur des technologies qui permettent de mesurer avec la même précision des carburants durables, peu importe la composition du carburant. Je crois qu'il faut aussi regarder le présent, c'est-à-dire la décarbonisation des avions. Ça doit commencer maintenant avec les technologies, je disais tout à l'heure, que réduction de masse, optimisation des opérations au sol et en vol, ça c'est des technologies qu'on peut mettre en place aujourd'hui. Donc, on peut commencer aujourd'hui à fournir des systèmes, des équipements qui permettent une meilleure efficacité énergétique des avions d'aujourd'hui.
Quels sont les budgets que vous consacrez annuellement à cette décarbonation de l'aviation ?
Chez Collins, nous, en R&D, 2020, on a dépensé 3,5 milliards de dollars. On a fait une analyse assez grossière et 75% ou plus sont dédiés à la recherche des différentes solutions pour l'avion durable.
L'avion plus connecté, il vous fait relever quel défi ?
Chez Collins Aerospace, la connectivité, c'est l'écosystème connecté. L'avion, sol, les équipements qui peuvent en temps réel partager des données qui ensuite permet des analyses comme la maintenance prédictive, mais aussi l'optimisation des trajets l'avion et aussi les opérations au sol. C'est-à-dire on peut optimiser le temps d'attente d'un avion sur le tarmac, au taxi. On peut optimiser aussi le temps d'attente d'un avion qui attend par exemple la passerelle. Donc les systèmes connectés permettent effectivement d'optimiser tous les aspects opérationnels des avions. Donc cet écosystème connecté permettrait, in fine, de réduire, enfin d'optimiser les opérations en vol et au sol, et donc de réduire l'empreinte de carbone en conséquence.
Bernd Severs, vice-président de Collins Aerospace pour la France et l'Europe, pour le podcast de l'aviation.